C'est de lui, lui-même, qui nous confie et qui nous équipe pour ce ministère. Nous sommes ce sacerdoce royal, cette nation sainte, dans 1 Pierre 2, 4, 10. Et si pour rendre témoignage au Christ sur la terre, nous avons reçu, nous tous, la plénitude, grâce pour grâce. J'aime cette phrase, grâce pour grâce. Pas simplement une fois, mais jour après jour, grâce pour grâce. Et quelqu'un disait tout à l'heure, oui, j'ai été sauvé, mais j'ai besoin du salut de Dieu aujourd'hui dans ma vie. Et pas simplement pour moi-même, mais pour mon travail, pour ma vie personnelle, pour mon engagement. Grâce sur grâce. Nous avons besoin tous les jours de notre vie. Sept fois, 77 fois, la grâce de Dieu. Et effectivement, si nous pensons que nous n'avons plus besoin, que c'était pour une fois, eh bien on est mal parti, les amis. Parce que c'est tous les jours que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Oui, nous tous qui avons été sauvés, qui avons été intégrés au corps du Christ par son baptême, qui avons été fortifiés par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes appelés, nous qui sommes les sarments de ce cep, comme il est écrit dans Jean 15, nous sommes appelés à porter le fruit, d'être ces sarments, de cette branche, d'être chacune des branches qui portait du fruit. Et l'Assemblée et l'Église est un corps qui porte des fruits. Et vous êtes tous des branches, les unes à côté des autres. En ce moment, c'est la cueillette des oliviers. Je ne sais pas, en tout cas, nous, on cueille les oliviers et ceux qui en ont. Ils ont été pollinisés, mais c'est chaque branche qui porte des fruits. Nous sommes ce rameau qui avons été greffés et qui porte des fruits. Et nous sommes tous appelés à porter ces fruits. Amen. Non seulement nous sommes, parce que nous sommes participants au Christ, nous sommes membres de son corps, nous sommes appelés à donc être au service de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et être cette bonne nouvelle. Comment ? Je vais donner les moyens et puis on va parler des domaines. Mais tout d'abord, quelle est notre loi ? Cette loi, vous la connaissez, c'est la loi de l'amour. Elle vous paraît, c'est mièvre. Comment peut-on, avec de l'amour, toucher le monde ? Mais pourtant, et tout le monde le sait, ce qui demande, qui a le plus de besoin dans notre société, c'est le manque d'amour. Ce que les gens souffrent le plus, c'est le manque de relations. C'est l'isolement, c'est la solitude. Que ce soit au niveau des jeunes, ou des personnes âgées, ou de célibataires. C'est la difficulté de construire une relation, de faire confiance. Le monde est cruellement en défaut d'amour, a besoin terriblement d'amour. Et c'est de cela que Dieu nous demande d'annoncer, de proclamer, de déverser dans le monde l'amour, l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Cet amour qui nous a étreints, qui nous a touchés, qui nous a bouleversés, c'est cet amour qui nous amène à aller vers les autres et tous les autres. Amen. Ça, c'est notre loi. On peut la décrire d'une autre manière, cette loi, je vous la donne parce que je l'aime bien. C'est ce qu'on appelle la règle d'or. Mais je ne sais pas si vous connaissez cette règle d'or. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le mot règle d'or dans la Bible ? Alors, faites à autrui ce que tu veux qu'il te fasse. Faites à autrui ce que tu veux qu'il te fasse. Voilà ce que Jésus propose. Faites à autrui ce que tu veux qu'il te fasse. Quelle belle loi d'amour. Réfléchissez un petit peu dans tous les domaines de votre vie personnelle, familiale, enfants, parents, entreprise, l'école. Faites à autrui ce que tu voudrais qu'il te fasse. Déjà dans notre couple. C'est la clé de base de la vie de couple. On pourrait en parler. Je vous encourage à faire Alpha Couple. Si vous ne l'avez pas fait, on vous parlera de tout ça. Mais faites à autrui ce que tu veux qu'il te fasse. Amen. Voilà notre loi. Et puis, pour cet apostolat, Dieu nous équipe. Et là, je pense qu'il y a des choses où on a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence. Dieu Par l'exercice de cet apostolat, le Saint-Esprit sanctifie le peuple et nous accorde des dons particuliers, des charismes et des ministères. Vous les connaissez, dons de guérison, dons de parler en langue, dons de connaissance, dont les ministères de prophètes, d'évangélistes, d'apôtres, de pasteurs. Et là, vous allez peut-être me dire, mais tout ça, c'est pour le dimanche matin. C'est le dimanche matin qu'on fait ça, pas le lundi. C'est pour l'Église. C'est pour édifier l'Église. Non. Là, il y a vraiment un changement profond de notre mentalité. C'est pas comme ça que le Seigneur. Il a dit d'équiper les saints en vue d'annoncer le royaume. L'équipement des saints n'est pas fait pour qu'on soit pour s'équiper nous-mêmes, mais qu'on soit équipé pour servir dans le monde. Et si Dieu m'a donné des dons, des signes et des prodiges, est-ce que c'est pour ici ou est-ce que c'est pour être dans la rue? Est-ce que c'est pour qu'on s'auto-glorifie ou pour toucher les personnes dans la rue et qui sont dehors? Les miracles et les signes et les prodiges, c'est pour annoncer l'Évangile. Amen. C'est pour être dehors. Et je suis profondément convaincu que nous verrons plus les signes surnaturels et miraculeux de Dieu dans la rue. Je souhaite bien sûr les recevoir ici. Mais je crois profondément que Dieu nous appelle à être, que ce n'est pas que les hommes viennent à l'Église, mais que l'Église aille vers les hommes. Amen. Qu'ils ne viennent pas ici en disant « Viens chez moi, tu vas voir, c'est super, il y a des guérisons. » Mais que nous soyons, nous, dans la rue, pour les guérisons. Ça change complètement. On ne vend pas une boutique, on ne vend pas une recette. On bénit, on touche, on transforme notre société et notre monde et notre ville. D'accord, pour les signes et les prodiges. Mais un prophète, une parole de connaissance, c'est le monde qui a besoin de prophétie. C'est ce monde qui meurt parce qu'elle n'a pas de vision. Faute de vision, un peuple meurt. C'est ce monde qui a besoin de prophètes. C'est ce monde qui a besoin de paroles de connaissance dans la rue et de paroles de guérison. Est-ce que tout ça, c'est que pour nous? Et on se les garde bien au chaud? Entre nous, ah, nous sommes charismatiques, viens voir comme c'est bien, l'Église charismatique, c'est super. Ce n'est pas la vision. Équipés pour servir. Et les répartissons à chacun d'entre nous. Dans un organisme vivant, et nous sommes un organisme vivant, personne n'est passif. Je prends ces exemples. Mais on pourrait prier, parler de la prière. Tout le corps opère à sa croissance selon le rôle de chacun. Éphésiens 4, 16. Il y a diversité de ministères et diversité de missions, mais unité dans l'annonce de l'Évangile. Je vais prendre un autre exemple encore. Dans le travail. Et, ils sont, je cherchais des yeux, mais ils sont partis peut-être. Il y a des jeunes, en tout cas. Je ne vais pas les citer. Il y en a un qui veut être pompier. Je ne cite personne. Est-ce que vous pensez que ce qu'il fait dans l'Église est très différent de ce qu'il fait ailleurs? Est-ce que ce n'est pas le même ministère et le même appel qu'à ce garçon? De prendre soin des gens, de les secourir, d'être attentif. Je connais un autre. Il est infirmier. Cette personne, il y en a plusieurs. Et des infirmières. Si vous les connaissez, vous savez qu'ils sont des fois plutôt doux, attentifs, qui prennent soin de vous dans l'Église. Ils font la même chose dans la société. C'est le même ministère. C'est très pastoral d'être infirmier. C'est de prendre soin des gens. C'est un ministère pastoral. Alors vous vous dites, mais d'accord, super, mais moi j'ai un travail et je ne sais pas du tout. Ça ne sert à rien, mon travail. Et franchement, moi, je travaille le lundi et mon travail, moi, je le fais parce que c'est alimentaire. Je n'ai pas le choix. J'étais contraint et je n'ai pas compris pourquoi je faisais ça. C'était ma situation. Et longtemps, j'étais... c'est ma femme qui m'a dit un jour, mais tu es différent quand tu parles du travail. Tu es doux quand tu es à la maison, mais quand tu parles au travail, tu es beaucoup moins doux et moins agréable. Ça, c'est déjà c'est un truc qui n'allait pas. Et donc, ça voulait dire que je n'étais pas à l'aise dans mon travail. Puis parce que moi, j'avais rêvé d'un certain travail, et puis je faisais autre chose, parce que c'était les contraintes professionnelles, financières, et puis des choix personnels. J'avais voulu reprendre des études de théologie, donc j'avais dû arrêter un certain nombre de choses. Donc j'étais, je travaillais dans l'immobilier, pas vraiment choisi l'immobilier, puis j'étais même pas, j'étais consultant, et c'était un, je me sentais pas à l'aise dans cette position-là. Il a fallu vraiment que je réfléchisse et qu'on m'aide. Et d'ailleurs, c'est Jean-Marc Potenti qui m'a aidé dans ce temps-là pour que je décrive mais qu'est-ce que je fais dans mon travail. Et puis alors, j'ai défini un peu quelles sont les fonctions que j'avais et puis que j'ai rendu compte qu'au fond, ce que j'aimais ou ce que j'étais doué dans ce que je faisais, c'était de mettre en relation les gens, de les mettre en contact, de faire en sorte que ça fonctionne, qu'ils se mettent les uns avec les autres pour construire quelque chose ensemble. Puis peu, j'ai réfléchi, mais au fond, c'est la même chose que je fais dans l'Église. Ça a mis du temps, hein. Moi, ça m'a mis du temps. Et puis, il y avait eu des paroles, comme quoi je serais quelqu'un qui serait un pont ou une échelle, que les gens, que je permettrais aux gens de rentrer dans leur destinée. Et je dis, ah ouais, au fond, dans mon travail, je fais la même chose qu'à l'Église, alors que je croyais que c'était pourri, mon travail, et que voilà, je faisais la même chose. Je pourrais prendre plein d'exemples et je vous encourage vraiment, et on pourra en parler, y compris en entretien pastoral, à vraiment réaliser que les dons que Dieu nous a donnés dans notre travail sont les mêmes qu'il nous a donnés dans la vie professionnelle et dans la vie de l'Église. Qu'il n'y a pas de contradiction. Quel que soit ce travail, aucun travail n'est alimentaire. Mais ce qui est vrai dans mon travail, pour des dons pastoraux par exemple, peut être vrai aussi dans ma famille. Voilà, Nicolas, incontestablement, quand il a parlé de sa famille, il a parlé de la même manière que quand il parlait aussi de son travail, de son entreprise. Il a dit, je suis un leader, je dois être devant. Et voilà, ça fait parler. Et quand il est dans l'Église, et s'il avait une responsabilité dans l'Église, ben, il aurait les mêmes types de qualités professionnelles et personnelles, parce que c'est les qualités de Nicolas. Et je pourrais parler de chacun d'entre vous, je ne veux pas trop vous mettre mal à l'aise. Mais nous sommes donc équipés, et nous ne sommes pas seulement équipés pour vivre notre vie de chrétien tranquille le dimanche, mais pour transformer et que ces services, ces ministères, ces charismes que Dieu nous a donnés, nous les utilisions tous les jours de notre vie, dans notre famille, avec nos amis, dans notre travail, dans la société. Amen. D'autres éléments, et là aussi, pour notre équipement apostolique, la foi. N'apprend rien. C'est les quatre points de Acte 2, 47. On en parle de cinq, mais il y en a quatre plus un en réalité. La foi, la méditation de la parole de Dieu, la prière, la communion fraternelle. Et le cinquième, c'est annoncer l'évangile. Mais c'est la conséquence. Mais c'est de cela que j'ai besoin. Oui, j'ai besoin de la parole de Dieu, d'être renouvelé tous les jours par la parole de Dieu. Et nous voyons combien, si nous voulons toucher ce monde, nous avons besoin d'être renouvelés dans notre intelligence pour mieux comprendre et pour savoir ce qui est juste, vrai et véritable. Et puis, nous avons besoin de la communion fraternelle. Mais la communion fraternelle n'est pas une fin en soi. Les réunions fraternelles de dimanche ne sont pas une fin en soi. Les groupes de maison ne sont pas une fin en soi. C'est un moyen. C'est un moyen. L'Église n'est pas une fin en soi. C'est un outil que Dieu a donné afin que le monde croit. Il a décidé, on pourrait considérer que ça paraît fou que Dieu ait choisi ça. Il nous a choisis pour que nous soyons la bonne nouvelle de ce monde. Ouais, t'as raison Mathieu, c'est un peu fou, on se demande vraiment. Mais voilà, on est la bonne nouvelle. C'est écrit dans la parole. Vous êtes l'épître vivante. Dieu a écrit dans votre cœur une épître. La bonne nouvelle, c'est chacun d'entre nous qui sommes la bonne nouvelle et que nous pouvons être la bonne nouvelle du Christ dans notre, là où nous sommes. Malheur à moi si je n'évangélise pas, dit Paul. Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle du Christ. Alors, les domaines de notre apostolat. Ce qui est une chose qui est importante à savoir, c'est que il y a beaucoup de domaines où nous pouvons annoncer la bonne nouvelle et faire progresser la bonne nouvelle. L'œuvre de rédemption du Christ ne concerne pas simplement le salut des âmes, nous l'avons dit la semaine dernière, le salut des hommes, mais embrasse aussi le renouvellement de tout l'ordre temporel de ce monde. C'est de pénétrer, de transformer par la bonne nouvelle, par la puissance de l'Évangile, notre société. Et nous avons à faire cela tous les jours de notre vie. Oui, Christ a décidé, et c'est les versets de Colossiens que je vous encourage à relire, nous n'aurons pas le temps de les lire ce matin, un Colossien, mais c'est peut-être un des passages qui m'intéresse le plus, où il dit qu'à travers Christ, il a décidé de tout réconcilier dans les cieux, sur cette terre et sous la terre. Tout réconcilier avec Christ et tout faire que toute la création, de nouveau, soit réconciliée avec le Christ, dans la plénitude du Christ. Bien évidemment, l'annonce de l'Évangile, et on est content et on aura des nouvelles tout à l'heure d'Alpha, des deux Alpha, hein, Alpha Campus, Alpha Jeune, enfin non, Alpha Classique. Ils sont jeunes, mais c'est Alpha Classique. Mais comment peut-on imaginer que l'annonce de l'Évangile serait quelque chose qui serait réservé aux gens d'Alpha, à un programme? Comment peut-on imaginer que ça serait réservé qu'à quelques-uns? C'est un outil. Mais ceux qui annoncent l'Évangile, ce n'est pas Gérard, c'est qu'il fait, mais ce n'est pas que lui. Ça doit être chacun d'entre nous. C'est notre responsabilité collective. Et cet évangile, et Olivier en parlait il y a 15 jours, je crois, ou la semaine dernière, je ne sais plus, dans son travail. Non, c'est avec moi que tu en parlais, peut-être pas à tout le monde. Je peux en parler. Hein, et que tu avais un copain, que tu as rencontré, qui t'entendait bien, et qu'il avait dit, mais il y a quelque chose de spécial. Et c'était ta foi chrétienne. Et toi aussi, tu avais vu qu'il y avait la foi en lui. Nous pouvons annoncer l'évangile. David me parlait tout à l'heure, Morin, de ce qui se passait chez les pompiers. Et donc, vous savez qu'il est pompier, donc c'est David Morin. Je l'ai. Il n'est pas là, donc c'est parfait. J'ai évadé. Et il me disait. Donc, vous savez que les pompiers ont des problèmes en ce moment, il y a des caillassages, des grosses difficultés. Donc j'étais venu le voir en disant, mais comment ça se passe pour toi? Parce que c'est quand même invraisemblable qu'on caillasse et qu'on aille attaquer des pompiers qui aillent dans les quartiers sensibles, comme on dit. Et donc ils sont en grève. Et ils m'ont dit, mais tu sais, il y a un truc incroyable qui s'est passé hier. Hier ou avant-hier, c'est hier. Hein, il m'a dit, bon, ils sont en grève, donc ils organisent des sittings, etc. Ils m'ont demandé qu'on fasse du gospel. Hein? Vous entendez bien? Et donc, devant du Oda, en bas du Jean Jaurès, ils ont fait un petit concert de gospel. Donc, il y avait David, il y avait Benjamin, il y avait Franck. Toi, tu étais là? À Feuchères. Je ne sais pas où c'était. Ouais. Voilà. Amen. Et ils ont beaucoup aimé. Et ils sont pris en photo. Et les syndicalistes se sont tous fait prendre en photo avec les garçons. Et tout ça va être dans la presse. Amen. Non, vous n'êtes pas d'accord? On annonce la bonne nouvelle. Je suis pressé pour annoncer la bonne nouvelle du Christ. Mais cet apostolat ne consiste pas seulement à un témoignage de vie, comme l'a fait ces garçons hier, mais a aussi amené chaque personne à être renouvelée et à renouveler le monde. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que tous les biens de la vie, de la famille, de la culture, des réalités économiques, de la profession, des institutions, tout cela a été voulu par Dieu. Amen. Tout a été voulu par Dieu. Oh, tu crois? Oui, oui. On ne va pas faire un enseignement complet ce soir, ou ce matin plutôt. Mais prenons un exemple et on va revenir. Travail. Je reviens sur ce travail parce que je trouve qu'il est très intéressant. Ah non, c'est le fruit du péché, le travail. C'est parce que l'homme est tombé que le travail, que nous sommes amenés à travailler. Lorsque nous étions dans le paradis, il n'y avait pas de travail, on s'accoulait. C'est pas vrai. Stop. C'est pas vrai. Le travail était voulu par Dieu avant le péché. Vous relisez le texte. Vous cultivez un jardin. Enfin, je ne sais pas. Je vous mets tous un témoin ce matin. Hein. Francis, cultiver un jardin, c'est du travail, non? Enfin, moi, en tout cas, pour moi, c'est beaucoup de travail. Prendre soin de la nature et de la création, surtout quand c'est une terre entière, c'est beaucoup de travail pour Adam et Ève. Ce qui est écrit, c'est que à cause du péché, le travail va devenir difficile, douloureux, et que vous aurez des épines dans vos champs. Mais le fait de travailler, de participer à la création, d'entretenir la création, et combien là... Combien le péché a transformé cette terre, l'a détruite, l'a abîmée. C'est pas l'homme qui a détruit la terre, c'est son péché. C'est pas parce qu'on est trop nombreux que cette terre est dans cet état-là. C'est parce que nous en avons un usage égoïste, destructeur, qui détruit cette terre, ce que Dieu nous a donné et que nous abîmons. Donc il n'y a pas un domaine sur cette terre où Dieu ne veut pas que nous agissions. Et c'est d'autant plus important, et je prenais l'exemple de l'écologie et de la terre, que nous voyons une société et un monde de plus en plus abîmés par le péché. C'est pas très politiquement correct ce que je viens de dire là, hein, mais c'est la vérité. C'est vrai sur l'environnement. C'est vrai sur le travail, là aussi. Et on en parlait la semaine dernière. Combien la valeur de la personne humaine, la reconnaissance du travail personnel est de moins en moins reconnue dans une société, dans une entreprise. On se gargarise de mots, mais en réalité, les hommes et les femmes qui travaillent ne sont de moins reconnus. Et la réalité du travail, telle que Dieu l'avait voulu, est de moins en moins méprisée, devenue que de l'argent, une variable d'ajustement. On appelle ça l'homme devenu une variable d'ajustement. Vous rendez compte? Le monde n'a pas besoin que nous soyons là. Nous avons beaucoup de choses à faire. Je vais prendre 3-4 exemples. Ils ne sont pas limitatifs, mais ils sont intéressants. Et d'ailleurs, alors oui, alors le problème, pour un dyslexique, regardez le truc, appuyez dans l'autre sens, c'est vraiment... compliqué. Les domaines de notre apostolat. Le premier, ça vous paraît bateau, mais il n'est pas si bateau que ça. Lui aussi, ce n'est pas le fruit du péché, la famille. Hein, la fête de tu quitteras ton père et ta mère, tu ne vous ferez qu'un seul corps, que seul âme, et vous croissez et multipliez, c'est avant le péché. La famille a été établie par Dieu de tout temps. Et c'était le plan voulu par Dieu d'établissement de la structure sociale de base pour l'ensemble de l'humanité, pas seulement pour les chrétiens. J'entends ça des fois. La famille, c'est pour les chrétiens. Pour les autres. Non, la famille a été établie, la relation homme-femme a été établie pour l'ensemble de l'humanité. C'était le choix de Dieu pour la création. Nous avons besoin que dans la famille, et je dis, c'était un acteur, Edouard Baer, qui disait ça, que la vie de couple était la seule grande aventure digne de ce nom du XXIe siècle. J'aime très, très bien cette phrase. C'est vrai. Quel enjeu incroyable. Quel courage, quelle foi de se dire oui et de dire oui après des enfants. Nous sommes témoins dans notre famille. Et nous savons bien que s'il y a bien un domaine, un lieu où nous sommes le plus challengés, pour parler, plus mis au défi, plus où notre apostolat est mis en défaut, bien souvent, c'est notre famille. C'est avec nos enfants, c'est avec notre épouse, notre mari. Et nous avons besoin de prier. Je vous appelle, vous tous, à prier, y compris si vous n'êtes pas pour les couples et les familles de l'Église. Merci Seigneur pour l'initiative qu'avait pris Hélène il y a quelque temps, à ce que chaque famille de l'Église soit couverte par la prière. Que chaque enfant, on va revenir tout à l'heure, soit couvert par la prière. Tellement les enjeux sont importants. Mais la dignité de la famille ne s'arrête pas simplement à notre famille personnelle, mais elle est pour la défense de toutes les familles, la protection de toutes les familles, de s'occuper dans les problèmes de l'éducation et de prendre notre engagement. On n'a pas les infirmiers. Peut-être beaucoup parmi vous ont voulu être enseignants. Est-ce que, là aussi, ils ne répondent pas à un appel de Dieu ? Profond. Isabelle me racontait qu'ils ont eu une rencontre des femmes la semaine dernière, il y a 15 jours, c'est ça ? J'ai appris un truc, et qu'ils vont faire des groupes de prière, et qu'entre autres, il y a des groupes de prière qui vont se mettre à prier, qui vont adopter une école, ou un lycée, ou un collège. Quelle bonne idée ! Quel enjeu ! Et que toutes les semaines, enfin je ne sais pas comment ça s'organise, ils prieront pour cette école, même s'ils ne la connaissent pas, pour ce lycée, ou cette école maternelle. Quel enjeu. Mais le ministère dans la famille peut être encore de toute autre manière. Adopter des enfants, accueillir des enfants, étrangers, aider à la bonne marche des écoles, conseiller et aider les adolescents, aider les fiancés à se préparer au mariage, aider les couples dans leur mariage. Tout cela, c'est le ministère apostolique dans la famille que nous sommes tous appelés à mener. Aider soutenir les familles qui sont dans des difficultés matérielles. On connaît la situation que l'essentiel, peut-être pas l'essentiel, mais 70% des problèmes de pauvreté sont souvent liés à des familles monoparentales. Combien la difficulté est soutenir. Et dans notre assemblée, mais au-delà, dans le monde, comme on dit, toutes les familles monoparentales, avec toutes les difficultés que ça peut avoir. Aider les personnes âgées. Là aussi, le lien familial a été disparu. Il y a les décès. Mais combien je me rends malade, honnêtement, quand j'entends des personnes âgées disant « Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que je ne vois plus mes enfants. » Moi, ça me... Peut-être parce que j'espère que jamais ça m'arriverait. Mais franchement, je ne peux pas imaginer des choses pareilles. Et Nicolas a cette initiative. Tu en parlais tout à l'heure ? Qu'on écrive à toutes les personnes âgées. Ça fait partie du ministère apostolique des familles. De donner cette relation avec les personnes âgées. Deuxième sujet. L'enfance et l'éducation. Le travail, on va avancer, parce qu'il y a déjà, on en a parlé un peu. Hein, on va considérer que j'ai parlé déjà du travail. On pourra en reparler. Mais vous avez vraiment un ministère apostolique dans le travail. Mais quand je pense au travail, juste un mot, et on pense aux prophètes, on pense aussi économie, accumulation de richesses, injustice. Relisez ce que disent les prophètes, les colères des prophètes sur les balances injustes, sur les tromperies, sur les hommes ou les femmes qui utilisent leur pouvoir, leur argent, pour dominer, contrôler, abuser. Tous les prophètes en parlent, mais pas déjà les prophètes, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Quand on pense aussi au travail, on pense aussi à Mammon. Il n'y a-t-il pas là des domaines où nous avons un ministère apostolique fort à porter, une autre vision du monde à donner ? toute façon, les autres, ils n'ont plus de vision, y compris sur l'économie. Ils sont complètement à la ramasse, vraiment, comme on dit. Si nous ne parlons pas, il n'y a plus rien. Et toute personne qui travaille... J'ai rencontré des économistes, etc. Si nous n'avons pas une parole forte dans ce domaine-là, il n'y a plus rien. Il n'y a même pas d'alternative. Avant, il y avait le communiste, etc. Non, il n'y a plus rien. Les gens sont paumés. Et les économistes, les premiers. Les enfants, la jeunesse, on a commencé à en parler. Et là aussi, et je le vois, y compris combien ce que nous faisons dans l'Église et ce que nous faisons dans le monde est la même chose. Ce que je cite tout le monde aujourd'hui, Hélène, un exemple, elle a dit, ce que fait les enfants, et maintenant elle est responsable du CPE, mais c'est le même ministère, le même apostolat. C'est vrai de beaucoup de jeunes. Le même ministère. L'enfance, l'éducation. Dernier point, je voulais terminer un peu sur cela. Les plus faibles. Ce que vous ferez au plus petit d'entre vous, d'entre nous, c'est à moi-même que vous ferez. C'est vrai avec les enfants, d'ailleurs. C'est des êtres fragiles. Et les parents les protègent. C'est vrai des gens, personnes malades. Et le ministère apostolique, il se fait aussi dans la santé. Vous savez, je pense que si je faisais une étude sur la proportion d'infirmiers ou d'enseignants dans une église, elle est plus importante que dans la société. Ce n'est pas un hasard. Est-ce que vous avez envie de prendre soin des gens, y compris des gens les plus faibles? Et une personne qui est malade est une personne faible. Et dans l'histoire de l'Église, ces deux domaines ont été les premiers domaines où l'Église s'est engagée. Secourir les plus faibles, les malades, les pauvres, les déshérités, et s'occuper des enfants et de la jeune. Depuis que l'Église est créée, et quelles que soient les confessions, ce n'est pas un hasard. Et vraiment nous encourager, et vous encourager, et vous encourager, vous tous qui êtes enseignants, médecins, infirmiers, soignants, que soyez bénis dans votre travail. Et que vous ne voyez pas votre travail comme étant un travail alimentaire, mais un lieu où vous pouvez exprimer puissamment l'œuvre de Dieu, annoncer le royaume et prendre soin des plus pauvres et des plus fragiles. Oui, ils ont besoin, dans leur respect, et là, pas non plus dans un objet, je dirais mercantile, mais de toucher les personnes fragiles. La maison des parents, j'allais l'oublier, c'est aussi un ministère apostolique, familial. On s'occupe, on s'intéresse aux familles, en difficulté, à un moment précis. Mais les œuvres sociales, vers les plus pauvres, les plus faibles, me paraît aujourd'hui d'accepter, de partager, d'accepter, de soulager la souffrance humaine. Quelle que soit cette souffrance, qu'elle soit matérielle ou psychologique, il y a des faiblesses matérielles, il y a aussi des faiblesses psychologiques, humaines, faites à travers des désastres de la famille, des abus sexuels, des traumatismes. Quels que soient les domaines, je ne peux concevoir qu'une assemblée, qu'une église n'ait pas mis le faible au centre. C'est tellement contraire à l'esprit du monde. Et nous sommes là pour être des prophètes. Nous sommes là pour transformer. Nous sommes des révolutionnaires, les amis. Et être un révolutionnaire, c'est de faire l'éloge de la faiblesse, de la reconnaître, de l'accepter, de les aimer, de les secourir. Je vous en ai déjà parlé, mais j'avais été profondément touché par la visite de l'hospice de Beaune à Beaune, qui est un hôpital créé au XIVe siècle. C'est pas du vin, à la base, même s'il y a du vin, et l'histoire est intéressante, y compris dans la vision du royaume. C'est un magnifique bâtiment. Et c'était fait pour accueillir, et dans des conditions hygiéniques modernes pour l'époque, y compris donc avec des lits individuels. Alors qu'avant, les gens étaient assis, malades, 10 par lit, sur des paillasses. Et ils ont fait, pas un CHU comme celui d'Avignon, celui de Nîmes, hein, Antoine, ils ont fait une œuvre d'art. Ils en ont fait une œuvre d'art. Ils ont fait des choses les plus belles pour accueillir les plus pauvres et les plus faibles de Bourgogne. C'est des chrétiens qui l'ont fait. Quelle vision pour nous ! Quel engagement ! Et il a mis des versets, ils ont mis des peintures, etc. Enfin, c'est, allez le voir. Mais tout ça a été fait pour accueillir des gens qui étaient en difficulté. Et pour les aimer, et pour les bénir. L'éloge du plus faible, accueillir le plus faible, ce n'est pas du misérabilisme. Voilà. Ce n'est pas de la sophrologie, mais enfin, l'éloge de la souffrance. Mais c'est une réalité. C'est l'accepter. Et je suis fâché, des fois aussi, de voir que dans nos églises évangéliques, on nie cela parce que, bien sûr, nous croyons à la guérison, au plein emploi, enfin, tout. Mais accepter les gens comme ils sont. Que ça aille bien ou que ça aille mal. De les aimer. De ne pas porter de jugement sur eux. Genre, ah, t'as ça ? Ça veut dire quoi ? Ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que j'ai ça, point. Ça suffit de chercher des explications là où il n'y en a pas. Je suis malade. Arrêtez. La maladie fait partie encore de notre réalité. Bien sûr que nous sommes opposés. Bien sûr qu'elle ne vient pas de Dieu. Bien sûr que c'est nous sommes contre. Mais hélas, nous tombons encore malades et nous mourrons. Parce que c'est la parole de Dieu. La mort sera le dernier ennemi à être vaincu. Et je crois profondément à la guérison personnelle. Je prie et tous les jours et tous les dimanches ici. Et nous revoyons des guérisons. Et je le crois profondément. Mais accueillons les gens comme ils sont. Et apprenons à les aimer. Et que toutes les souffrances humaines soient mises à l'honneur et respectées et réconfortées. Voilà ce que je voulais vous dire. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore. Mais on va s'arrêter là, il est tard. Ce que je veux bien vous faire comprendre, c'est que le but des dons que Dieu vous donne n'est pas l'édification de l'Église, dans le sens restreint du terme, mais l'annonce et la transformation et l'édification et l'annonce du royaume de Dieu. Nous ne sommes pas là pour être dans l'interne, mais pour dans l'externe. Nous sommes là pour transformer le monde et annoncer l'Évangile. Et vous êtes équipés pas pour être des super pasteurs le dimanche matin, mais pour être des super pasteurs le lundi matin, dans votre société, dans votre travail. C'est ça le but. On n'est pas un monastère. Même si j'aime bien les monastères, nous ne sommes pas un monastère. Nous ne sommes pas hors du monde. Nous sommes des ambassadeurs, nous sommes appelés à être dans la société. Et je vous encourage vraiment à continuer à réfléchir. Discutez avec moi si vous n'êtes pas d'accord, parce que c'est contraire à ce que vous aviez entendu pendant des années ou des décennies. Mais je suis ferme sur mes principes, sur ce domaine-là, parce que je pense que c'est la vérité, enfin, c'est juste. Et que je pense que c'est profondément aussi l'appel que Dieu a sur nous et sur notre Église particulièrement, et que nous avons là vraiment à bien compris. Et que la volonté de Dieu, et nous allons prier maintenant, c'est... Comment je peux être une bonne nouvelle ? Comment je peux être une bonne nouvelle autour de moi ? Comment Dieu... Je te demande pardon parce que j'ai mal jugé mon travail. Et je voulais faire ce travail-là, mais je fais cet autre. Comment je peux être une bonne nouvelle dans mon travail ? Comment je peux être l'annonce de l'Évangile dans ma famille ? Dans mon quartier ? À l'école ? Être ces agents de bonne nouvelle. Amen. Pour terminer, on va passer une petite vidéo, juste pour vous détendre. La bonne nouvelle, c'est lui, la bonne nouvelle, c'est nous. C'est une comédie musicale, j'ai eu le plaisir de la voir jeudi. C'est très bien, elle va venir à Montpellier au mois de mars. Ça m'a beaucoup plu cette histoire, parce que ce n'est pas des chrétiens qui ont écrit ça. C'est vraiment super. Je vous encourage. Et je dis, mais... Waouh, si des gens font des spectacles comme ça où il y a des dizaines de milliers de personnes, parce que là, c'est 4000 personnes à Paris tous les soirs pendant 6 mois, vont voir l'annonce de l'Évangile, quelle soif il y a ! Quelle force il y a ! Quelle demande ! Et nous, on va rester dans nos petits coins. Alors qu'il y a une telle demande dans le pays, une telle soif dans le pays. Bien sûr, il y avait des chrétiens dans la salle, mais il n'y avait pas que des chrétiens. Et les gens étaient enthousiasmés. Et l'annonce de la parole, l'annonce de la croix, y compris sur la croix, c'était impressionnant comment ils l'ont fait. Le respect de tout ça, waouh, waouh. Ça m'a donné la pêche. Et ça m'a donné la pêche. Mais je ne peux pas rester dans mon coin. Je ne dois pas rester aux 260 du saut du lièvre. Ce n'est pas possible. Il y a un monde qui nous attend. Voilà, donc on va se faire plaisir. Je vais vous écouter tout ça. Ce n'est pas une parole d'évangile. Mais c'est quand même une bonne idée. La bonne nouvelle, c'est lui. La bonne nouvelle, c'est nous. Amen.